puisque de toute façon, l'historique, il est que tu as un premier mouvement qui s'enclenche, et ce premier mouvement, il est fait sur la base de vous, votre analyse de la situation.
Oui, c'est-à-dire qu'il est fait, on ne décide jamais d'une grève à la place des gens, des intéressés eux-mêmes. Donc c'est les intéressés eux-mêmes qui décident de choisir leurs moyens d'action, et puis en même temps, les modes d'organisation qui permettent que ce moyen d'action soit efficace, plus ou moins, et donc les outils employés ont été en effet le syndicalisme, en particulier le syndicalisme de la CGT, surtout dans ce qu'on a appelé l'acte 1 après coup, et puis le recours à la grève, à l'occupation des entreprises où il y avait ces grèves, donc à des moyens et des modes d'intervention qui sont on ne peut plus traditionnels par rapport à ce que faisait le mouvement ouvrier français si on remonte au XXe siècle. Hein, donc, de ce point de vue-là, on a en même temps l'explication avec cet historique de ce que le point de départ, quand on a des grèves de travailleurs sans papier, c'est qu'il faut commencer par le départ. Ouais. Il s'agit de grèves et il s'agit de travailleurs bien avant qu'il s'agisse de sans papier. Et que pour nous, au niveau de la CGT, on a toujours considéré que le statut de sans-papier, si on peut appeler ça un statut, était une des formes de précarité dans la flexibilisation du marché du travail. Donc c'est-à-dire qu'on est confronté tout à fait aux directives européennes qui visent à ce que, soi-disant, le marché du travail serait trop contraignant et qu'il faudrait y introduire plus de flexibilité pour que la compétitivité avec les marchés internationaux, etc., soit rétablie et que la productivité soit élevée. Donc, en gros, ce travail syndical qui a été fait avec les travailleurs sans papier ressemble absolument à celui qui a été fait avec, par exemple, les stagiaires qui n'étaient pas payés, y compris dans des grosses entreprises où ils faisaient un travail de qualité et de qualification énorme, mais gratuitement, ou avec ce qu'on a pu connaître avec les batailles des intermittents du spectacle, ou avec toutes sortes de catégories d'emplois aidés, au titre de l'insertion, sous le prétexte de l'insertion, ou alors, par exemple, les batailles qu'on a menées contre le CIP, ou plus récemment, le CNE et le CPE, qui visaient à précariser à l'extrême pendant 2 ans, des gens en période d'essai. Donc, pour nous, avant tout, il ne s'agit pas de bataille d'immigrés, ni de sans-papiers, mais de bataille de travailleurs précaires. À partir de là, les sources historiques, on ne va pas forcément les rechercher dans les luttes d'immigrés. Il y a des luttes spécifiques de l'immigration en France, mais ce n'est pas forcément l'affiliation la plus logique. Je dirais que l'affiliation la plus logique, elle est peut-être dans les luttes contre le CNE ou le contrat première embauche qu'on avait eu 1 an, 2 ans avant les grèves coordonnées de l'année dernière, qui ont permis qu'apparaisse très largement dans les médias la figure du travailleur sans papier, qui n'était plus un clandestin, qui n'était plus un sans-papier tout court, mais qui était un travailleur, qui avait ses bulletins de salaire, qui avait ses déclarations d'impôts, qui avait cotisé à toutes sortes d'organismes sociaux et n'avait rien en retour. Quand il était au chômage, il ne pouvait pas être indemnisé. Par contre, il cotisait bien sûr à l'UNEDIC, comme il cotisait pour les caisses de retraite, les complémentaires, les mutuelles, etc., etc.
Oui, sauf que pour autant, le fait qu'il soit clandestin a quand même son importance parce qu'ils se mettent doublement en danger s'ils s'affichent, s'ils se montrent, dans le danger de perdre l'emploi que tout le monde connaît quand la question de la grève se pose, mais le danger aussi de l'expulsion.
Alors le danger, il est intégré parce que ce n'est pas s'ils se montrent. On est dans une hypocrisie complète. La plupart des sans-papiers, tout le monde sait qu'ils le sont. Ouais. Et surtout les employeurs, puisque un employeur qui utilise un sans-papier, quand il le déclare, quel est l'intérêt? On n'est pas dans les cas de travailleurs. Il y en a aussi parmi les travailleurs sans-papiers que l'employeur refuse de déclarer. La seule chose, c'est parce qu'ils savent très bien, ces employeurs, que les salariés en question ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête de par leur statut de sans-papiers, on va pouvoir les faire travailler de façon continue, avec des horaires déments, dans des conditions extrêmement dangereuses, où tout autre salarié ayant des droits pourrait refuser.
Oui, mais donc de ce même moyen de pression-là fait aussi que comment d'un coup on réussit à faire en sorte que ce mouvement prenne, et de sorte, parce que j'imagine que ce sont des hommes et des femmes qui sont quand même dans cette peur-là.
La peur existe, en même temps, la réalité économique existe également. C'est-à-dire que la réalité économique, c'est que dans ces entreprises, ils sont incontournables, irremplaçables, et que numériquement, tout le monde sait très bien, aujourd'hui, on a des rapports de la Cour des comptes qui nous montrent que, par exemple, le coût d'une expulsion ou le coût de plusieurs expulsions sont des budgets absolument déments. Absolument déments, parce qu'il faut payer les escortes, il faut payer les retours des escortes, etc. Il faut payer parfois la rétention, qui elle-même coûte cher. On sait très bien que quand il s'agit, chiffre utilisé par Besson, de 400 000 salariés, dans l'économie française, on ne va pas expulser les 400 000 salariés, on ne va pas expulser plus que ce que le budget de l'État permet.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, mais ça, c'est des réalités. Quand ensuite tu es toi un individu avec voilà, et en plus
bien sûr
plus,
le risque existe, voilà. Mais le risque existe curieusement beaucoup plus pour un Roumain qui est dans l'Union européenne, oui. Que pour un Chinois. Pourquoi? Parce que le travailleur chinois, l'éloignement est extrêmement cher.
Effectivement. Mais alors du coup quand même ça explique que qu'il n'y avait pas de mouvement avant, et comment d'un coup tu arrives à des milliers de sans-papiers qui se mettent en grève.
Bah, très simplement, parce qu'au début, il y a eu un certain nombre de travailleurs sans-papiers qui ont décidé collectivement de s'organiser, de poser le problème de façon coordonnée. Donc, il y a eu un travail qui a été fait au départ par la CGT, en effet, avec une association qui était droit devant, et qui a permis, donc, en avril, donc il y a exactement deux ans, on pourrait dire jour pour jour, le démarrage de cette grève qui a été extrêmement médiatisé, qui a permis de faire apparaître de façon assez publique le problème, sachant que l'effet déclencheur, je pourrais dire, a été la pression du patronat sur l'actuel gouvernement. Sarkozy s'était quand même fait élire largement, alors qu'il avait été auparavant ministre de l'Intérieur, sur des discours anti-immigration. Et les discours anti-immigration, d'ailleurs, c'est absolument la contradiction à laquelle aujourd'hui Besson se heurte, avec son identité nationale et ses menaces brandies de saisir les entreprises ou de confisquer qui utiliseraient des travailleurs sans papier. En réalité, on a une grande partie du patronat qui souhaite qu'il puisse à la fois bénéficier du travail des sans papiers et le faire en toute impunité. Donc il faut absolument des voies d'accès à la régularisation pour les travailleurs.
D'accord.
Et l'article 40 de la circulaire Hortefeux, ouais, qui donc a été mise en place très peu de temps après l'élection de Sarkozy, permettait à un employeur de faire régulariser éventuellement ses sans-papiers méritants. Les grèves qui ont commencé peu de temps après ont été l'affirmation par les salariés eux-mêmes grévistes que si le patron avait le droit de les faire régulariser, eux-mêmes avaient le droit de se faire régulariser. Donc il y a eu une utilisation renversée des intentions de la loi. Et c'est à partir de là que des premiers textes ont été mis en place, les pratiques se sont mises en place, qui aujourd'hui ont montré leurs limites, d'où la nécessité de ce qu'on a appelé l'acte 2, c'est-à-dire qu'on ne soit plus dans la seule régularisation des grévistes, mais dans une banalisation du droit à la régularisation des gens qui travaillent, qui ont des fiches de paye, qui ont un employeur, qui ont une utilité économique dans ce pays, ou même, dans certains cas, puisque c'est une vraie question également, de ceux qui aujourd'hui travaillent depuis des années, réclament à cotiser au moment où on nous explique que, par exemple, les caisses de retraite manquent d'argent, eux demandent à payer et on leur dit non, on ne veut pas de votre argent.
Je suis désolée, qu'est-ce que tu veux boire? Il y a thym, il y a du thé sans théine, du frais cassis.
Oui, alors, donc là, tu t'es introduit l'arrivée de l'acte 2, qui arrive donc en octobre
2009.
Mais alors, dans un contexte complètement différent, parce que quand, en avril 2008, démarre le premier acte, le premier mouvement, puisque à l'époque, on ne savait pas que ce serait le premier acte. Soudain, il y a aussi une réalité d'opinion publique qui découvre cette réalité-là, avec des choses très symboliques. C'était quoi? C'était la tour d'argent, donc, qui avait été...
Il y a eu le café de la Jatte, qui était le café où Sarkozy allait prendre ses croissants le matin, à Neuilly. Il y avait toutes sortes d'établissements, évidemment, de grands restaurants, comme celui de la Grande Armée. Il y a eu... alors en effet, la tour d'argent, c'était ensuite, mais la tour d'argent, c'était un peu la fin de ce qu'on pourrait appeler maintenant l'acte 1.
D'accord. Oui, donc, voilà. Donc, on se retrouve avec un premier contexte où il y a une médiatisation, où tout d'un coup, l'opinion publique prend conscience que finalement, partout où ils vont tous les jours, c'est des sans-papiers, etc., même si on le savait, mais c'était facile de se cacher. Où on se rend compte que s'ils se mettent tout d'un coup en grève, eh ben, ça quand même empêche le pays de tourner aussi. Et on voit avec un travail de très longue haleine, mais en plus avec une proximité, puisque tu as des, par exemple sur Montreuil, on identifiait très bien les sans-papiers qui travaillaient pour les sociétés qui étaient sur place, on comprenait, voilà, on les voyait, c'était nos voisins, etc. Donc une solidarité peut-être plus simple. Et on a l'impression que même si c'est de longue haleine, il y a des choses qui se règlent. Voilà. Et j'ai l'impression qu'en octobre, on n'est plus du tout dans le même contexte. Déjà, on en parle peu par rapport à l'événement, puisque c'était quand même énormément de travailleurs qui se mettent en grève d'un coup.
C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a eu en 2008 le début du mouvement, avec des travailleurs, en effet, extrêmement courageux, qui ont décidé de sortir de l'ombre, de faire grève, c'est-à-dire de se priver de revenus, hein, parce que même s'ils étaient menacés, ils avaient le SMIC souvent comme salaire. Oui. Tout d'un coup, plus de salaire, et pendant des mois. Et pendant des mois sans salaire, hein, puisque, en effet, les régularisations ne sont pas venues du jour au lendemain, sauf exception. Et rien que sur Montreuil, on a eu, dans ce qu'on appelait l'acte 1 maintenant, près de 200 régularisations, entre notamment tous les petits restaurants de la rue de Paris, d'accord, où il y avait énormément d'individuels, et des conflits collectifs, comme ceux, en effet, de Grialet, qui était une entreprise de démolition, ou Plus Net, qui était un sous-traitant de Bouygues chargé du nettoyage. Et où là, on a des régularisations collectives dans le cadre de conflits du travail très classiques, quoi. En même temps, tout le monde savait que là où la CGT, par exemple, n'était pas présente, les préfectures continuaient dans un arbitraire absolu. Et que, concernant le droit des étrangers, la France donne parfois l'impression d'être une vraie république bananière, puisque dans chaque préfecture, chaque service des étrangers fait un peu comme il veut. C'est-à-dire que des salariés qui avaient exactement les mêmes caractéristiques, le même employeur, les mêmes dossiers, selon qu'ils allaient déposer leur dossier en fonction de leur domicile à Bobigny, à Paris ou à Boulogne, avaient des réponses totalement différentes. Donc, cette exigence qui a été une de celles portées par l'acte 2, une nouvelle circulaire, c'est cette nouvelle vague de grève, donc, qui a demandé d'abord au ministre de l'Immigration, M. Besson, ce qui s'est avéré être la démonstration de son inefficacité, une deuxième circulaire, qu'il a été incapable de produire, du moins à la hauteur des demandes. Et aujourd'hui, le fait que les organisations syndicales qui sont unies avec les associations dans ce mouvement réclament aujourd'hui au ministre du Travail, Woerth, qu'il fasse une circulaire qui permette enfin que les préfectures puissent traiter du problème de façon égale sur tout le territoire français. Donc le mouvement actuel, il a cette caractéristique par rapport au précédent. Un, d'être un mouvement où les salariés sont en grève, pas seulement pour eux-mêmes, mais bien pour permettre qu'il y ait des critères d'ordre généraux, d'ordre public, qui soit éventuellement avec l'économie d'une grève.
Tu disais qu'il n'a pas été capable de produire une circulaire à la hauteur. Il y a quand même une...
Il a refait à la va-vite un texte sous la pression, texte qui, essentiellement, peut paraître même aberrant au plan administratif. Il s'agit d'une circulaire, hein, donc du droit administratif, puisqu'il y explique que les préfets peuvent, même sans texte, régulariser. Donc on est dans quelque chose d'absolument aberrant, et où, compte tenu de cette aberration, un espèce de vade-mecum qui n'a aucune valeur juridique a été additionné par Besson lui-même à ce texte, qui reprenait grosso modo les usages antérieurs des préfectures un peu totalisées pour que ça constitue un mode d'emploi de la circulaire. Mais outre que ce texte n'a pas de valeur juridique, il était avec une méconnaissance absolue du droit du travail, notamment en ce qui concernait les intérimaires, et là on revient à Manpower, puisqu'on expliquait que par exemple, dans ce fameux vadémécum, que les sociétés d'intérim devaient s'engager à fournir un an de travail. La durée moyenne des missions d'intérim à Pôle emploi est d'une semaine, et beaucoup sont d'une journée. Grosso modo, Besson était en train d'assassiner l'intérim. La branche de l'intérim disparaissait à partir du moment où sa circulaire prenait force de loi. Donc on a cette évidence très simple que Besson, en tant que ministère de l'immigration, de l'identité nationale, j'en passe, son travail, c'est exclusivement de mettre des barrières un peu partout. C'est-à-dire de lutter contre l'immigration, ceux qui arrivent. Or là, on ne parle pas d'immigrés au sens de Besson. Les gens, ils sont déjà là. Ils sont déjà dans l'économie, ils y travaillent, ils y ont une insertion sociale, de logement, parfois familial, etc. Et on est bien sur un problème de travail qui est de la compétence du ministre du Travail quand on a une grève qui dure depuis 7 mois.
Alors, cette grève, tu disais, donc on a des salariés de l'intérim, donc on se retrouve quand même dans une configuration un petit peu différente d'avant, où tu avais des salariés en grève qui occupaient leur entreprise. Là, comment ça se passe? Ils vont occuper leur agence? Comment ça démarre?
Bah, très simple. Là, on a aussi des salariés qui disent, mais les boîtes d'intérim sont-elles des employeurs comme les autres? Si oui, il doit y avoir les mêmes règles qui s'appliquent quand on est intérimaire que quand on est employé par une autre branche. Les entreprises de travail temporaire ont une convention collective, comme à la limite les gens qui travaillent dans le commerce à prédominance alimentaire ou ceux qui travaillent dans la métallurgie. Donc cette convention collective, le patronat de l'intérim doit aussi prendre ses responsabilités et permettre, de la même façon qu'on a permis à d'autres patrons de faire régulariser leurs salariés, qu'il y ait des textes qui valent pour ces catégories-là. De la même façon, le constat qui était fait d'une préfecture à l'autre, d'un traitement différencié des dossiers, se retrouve, quand on a un employeur un peu puissant comme Veolia, les dossiers se règlent très vite. Quand on a un petit patron que je ne vais pas forcément défendre, mais qui veut régulariser son salarié, par exemple le petit patron de garage, qui veut régulariser son salarié sans papier. Lui n'a aucun pouvoir sur les préfectures et se fait traiter à peu près de la même façon que le sans-papier lui-même. Donc on a véritablement besoin qu'il y ait des garanties. Des garanties, c'est-à-dire une sécurisation du parcours de régularisation pour tout le monde.
Et donc, je voulais en revenir sur la façon dont cette grève prend forme, parce que du coup, là, à l'heure actuelle, on a vu que très rapidement, il y a eu des piquets de grève évacués, etc., etc., et que finalement, alors là, je vais parler de Montreuil, on a l'agence Manpower qui est occupée depuis quasiment le début.
5 mois.
Ouais, voilà. Mais où ont convergé des personnes qui avaient auparavant été dans un autre piquet, voire qui avaient encore avant été dans un autre. On y retrouve même des personnes qui étaient en grève depuis 2008 aussi.
Très peu, mais il y en a aussi.
Comment ça s'organise, ça? Après, on reviendra sur le fait que là, c'est vrai qu'il y a une particularité.
On a privilégié dans ce mouvement parce qu'on avait cette difficulté des salariés dits isolés. Oui. Les salariés dits isolés, c'est ceux qui sont dans des entreprises où il était difficile, où le droit de grève garanti par la Constitution était inévitablement bafoué. Parce qu'ils étaient tout seuls dans l'entreprise, parfois avec l'employeur, parfois seuls travailleurs sans papier, avec quelques collègues qui n'allaient pas être solidaires forcément, du moins dans le cadre d'une grève, de la lutte, de la revendication de ce salarié. Et donc, on a travaillé par profession. C'est-à-dire, on a regroupé les travailleurs, par exemple, isolés du commerce, ou ceux du bâtiment, ou ceux de la sécurité, et ceux de l'intérim, en fonction de la dimension professionnelle. Ce qui d'ailleurs aboutit à ce qu'aujourd'hui, on ait certaines chambres patronales qui ont décidé d'engager ce qu'ils ont appelé une démarche commune avec les organisations syndicales auprès du gouvernement pour obtenir la circulaire qu'on réclame. Donc c'est le cas, par exemple, du patronat de l'intérim. Aujourd'hui, le PRISM, qui est le nom du syndicat patronal membre du MEDEF de l'intérim, qui demande que, en effet, des négociations s'ouvrent avec le ministère du Travail sur cette question et que ça se fasse évidemment avec les organisations syndicales concernées, dont la CGT. Et de la même façon, on a dans la restauration, le patronat de la restauration, qui pose la même exigence. On a des endroits où c'est plus compliqué, comme dans le bâtiment, mais on a plusieurs organisations patronales aujourd'hui, dont la CGPME, qui est pourtant pas particulièrement une organisation socialement très avancée, qui réclame, parce qu'évidemment beaucoup de ces grévistes aujourd'hui sont dans des PME, que les négociations s'ouvrent.
Donc, on pourrait penser que tout ça, il y a plein d'éléments positifs. Il y a le fait, donc on n'a pas dit, mais là, c'est 11 organisations qui se...
Il y a 11 organisations, puisqu'il y a 5 organisations syndicales, et pas des moindres, puisqu'il y a la CGT et la CFDT, qui sont quand même les deux plus importantes. Ouais. Il y a la FSU, qui, même si, évidemment, dans son champ, qui est plutôt l'éducation nationale, connaît peu de travailleurs sans papier, à parfois leurs enfants comme élèves. Ouais. Il y a l'UNSA et Solidaire. Donc ça fait 5 organisations syndicales et 6 associations qui sont, alors c'est assez large le prisme, hein, ça va de Droit Devant qui était dans ceux qui étaient au départ avec nous, à Réseau Éducation Sans Frontières, la Ligue des Droits de l'Homme, la CIMAD, Femmes Égalité, qui a fait un travail extraordinaire en ce qui concerne les femmes qui sont dans l'aide à la personne, et qui elles aussi souvent sont des sans-papiers avec en plus des employeurs multiples, donc une grosse difficulté dans la réglementation actuelle pour se faire régulariser. Et puis, donc, on a ce champ associatif qui est associé. Nous avons voulu le faire. Les ministères successifs ont chaque fois essayé de nous opposer les uns aux autres en disant on ne reçoit que les organisations syndicales sans les associations. Et cette petite coordination des 11 organisations fonctionne de façon hebdomadaire pour faire le point de l'avancée du mouvement, des difficultés éventuelles, des tâches à prendre en compte collectivement pour s'exprimer, etc. Et ça fonctionne très bien, alors que beaucoup de gens nous auraient pensé impossible de gérer ce type de diversité.
Alors, on part avec plein d'éléments positifs. 11 organisations ont réussi à fédérer, à rassembler des travailleurs isolés. Passer les premières évacuations automatiques, très réactives des piquets, on arrive quand même à installer des piquets qui durent dans le temps. Malgré les difficultés médiatiques du début, on arrive quand même à faire passer l'info, et notamment avec la rue du Regard à Paris, avoir des personnalités qui se mobilisent et avoir un écho médiatique. Bon. Mais là, on a l'impression que pour autant, ça piétine.
Alors pour l'instant, il y a une situation qui, à l'évidence, parce que on a essayé, en tant que les organisations qui sont les 11, d'éviter que la question soit portée sur un champ d'enjeux politiciens au sein de la droite. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on réclame une circulaire, alors que peut-être on aurait pu demander que la loi change. Ouais. Il est évident que peut-être la loi devra changer. Aujourd'hui, on a une majorité telle à l'Assemblée que réclamer un changement de la loi, c'était l'assurance de ne rien obtenir. Donc, demander qu'une circulaire permette à partir de la loi CESEDA, que par ailleurs, sur laquelle on exprime les plus vives réserves, qu'à partir de la loi CESEDA, il y ait une possibilité de circulaire nouvelle qui permettent qu'il y ait des règles acceptables et des régularisations, c'était un choix d'éviter aussi qu'il y ait conflit entre le ministère du Travail et un désaveu trop public de Besson. On en est là, on est dans une période où on sort d'élections régionales qui ont marqué aussi que les calculs faits d'opposer les sans-papiers à l'opinion ne fonctionnaient pas. Mmh. On arrive donc à une situation dans laquelle le changement du ministère du Travail fait durer les choses un peu plus que prévu. Mais là où ça a avancé pendant ce même temps, ça a été justement dans la constitution de ce qu'on appelait cette approche commune, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un texte signé par une lettre commune qui est envoyée à Wörth, avec évidemment interpellation aussi du Premier ministre et du Président de la République sur ces questions, disant, voilà, quand est-ce qu'on débouche sur un vrai dialogue sur un problème que tout le monde connaît, à savoir 6000 grévistes quand même, 6200 apparemment d'après les derniers chiffres, et une demande partagée par, dans le champ patronal, énormément d'organisations, dans le champ syndical de salariés, énormément d'organisations, et portée par 85% de l'opinion publique dans les sondages d'opinion.
Ok. Mais alors là, tu me donnes des éléments très positifs. Maintenant, je vais te parler évacuation de la rue Dominine, évacuation de la rue du Regard, déclaration de Besson sur l'arrestation de 23 personnes à Aubervilliers. Est-ce que il n'y aurait pas de quoi quand même craindre que ce durcissement soit défavorable à l'issue de...
Ce durcissement et ces interventions sont les signes avant-coureurs de l'imminence d'une négociation.
D'accord.
C'est-à-dire qu'évidemment, le gouvernement veut renforcer son rapport de force dans cette période où il sait qu'aujourd'hui, il ne peut plus éviter la négociation sur cette question. D'ailleurs, le débat actuel, qui peut paraître assez formel, mais qui est très révélateur, est le suivant. Wörth propose de rencontrer les organisations syndicales, évidemment sans les associations, prétend le faire rue Dauménil, c'est-à-dire dans les anciens locaux de l'UNEDIC, et non pas au ministère du Travail, rue de Grenelle. Mmh. Et il y a débat entre les 11 et avec les piquets de grève, bien évidemment, sur la question de savoir s'il faut accepter qu'on discrimine à partir du lieu une négociation qui, en toute logique, aurait dû s'ouvrir au ministère du Travail et pas ailleurs. Mmh. Bon, nous, en même temps, on est attaché à un résultat, donc on va voir comment on fait. Mais là encore, on est dans l'imminence de prise en compte d'un certain nombre de choses. Pour moi, il n'y a aucun doute que l'attitude qui a consisté de façon très récente à évacuer les piquets...
Sur lesquels il y avait eu des jugements. Hein, la justice.
Oui, non, mais ils l'ont fait d'autres fois sans qu'il y ait de jugement.
Les
jugements, ils s'asseyent dessus. Ils s'asseyent dessus. La plupart des boîtes d'intérim ont été évacuées sans jugement.
Oui,
donc, il y a des jugements qui ne sont toujours pas appliqués. Mmh. La question n'est pas là. La question, elle est qu'aujourd'hui, ils ont voulu faire évacuer les piquets un peu emblématiques de Paris aussi pour ce caractère symbolique. Ils n'ont pas touché, là, de façon récente, au piqué, par exemple, de Seine-Saint-Denis, ni celui d'Aubervilliers, ni celui de STN à Aulnay, où il y aurait une décision de justice à donner raison aux grévistes, ni celui de Manpower, où Manpower a renoncé à agir en justice, alors que tous les éléments de constat par huissier avaient été faits dès le démarrage.
D'accord. Donc, c'est lié à quoi, ce renoncement?
Je pense que c'est le patronat de l'intérim plutôt favorable à ce que les choses se régularisent. En même temps, on a affaire à d'énormes multinationales quand il s'agit de Manpower, qui considèrent que le blocage d'une agence comme Montreuil, c'est peanuts financièrement.
Pardon. Ça peut être évacué. Hein.
Ça peut l'être.
Donc, on a un processus donc lent, qui avance par un coup, mais qui là, soit est en voie d'aboutissement, en espérant que ce soit positif, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. En attendant, on a, tu le dis, 85% d'opinions favorables. D'une part, comment on... Parce qu'il y a deux choses. Il y a... Je pense, de l'opinion favorable avec des gens qui ont envie de contribuer à ça, parce que voilà, quand on voit quelque chose qui s'apparente à une injustice criante, on a envie. Donc, comment tout un chacun peut s'investir dans ce mouvement, de quelle façon il peut aider, etc. Et par ailleurs, et ça me semble quand même important, tu as commencé par me dire, on n'est pas sur une grève de sans-papiers, on est sur une grève de travailleurs. Mais est-ce que cette dimension-là est réellement intégrée par par l'opinion publique? Parce que ça soulève tout un tas... Il y a ce symbole-là qui est aussi que les travailleurs finalement les plus opprimés, enfin sur lesquels on pèse le plus, puisque là, on remet même, y compris en question, leur lieu d'existence, si jamais, voilà, dans le chantage que peut leur faire un patron, réussissent, eux, voilà, à se défendre, pourraient donner... de l'espoir. On parle par exemple des femmes qui sont beaucoup dans une situation de précarité, etc., etc. Donc comment on réussit, y compris, à faire comprendre qu'il s'agit du mouvement de la plus grande précarité, donc du mouvement de la précarité, tu vois, ça vaut tout le monde. Parce que j'ai l'impression que ça, en revanche, mis à part pour des gens qui sont déjà dans cette démarche de défense des droits du travail, etc., il y en a quand même encore beaucoup, je pense, qui sont là-dessus sur des principes, voilà, vis-à-vis de qui sont pour la régularisation de sans-papiers, etc., mais qui peut-être ne font pas ce lien-là. Je me trompe peut-être, mais...
Alors, moi, là-dessus, je pense que quand même, il y a la place prise par la sous-traitance dans l'économie, qui permet à beaucoup de gens de voir ce dont il s'agit de façon très précise, y compris par rapport à la place où ils sont dans la production. Quand on est dans un chantier, dans un gros chantier, par exemple, de bâtiment, on est rarement dans la société donneuse d'ordre. On est déjà généralement dans une entreprise qui a un lot qui a été attribué. On voit comment ça se passe parce que les lots sont redistribués avec de la sous-traitance en cascade. Et on voit très bien, parce que les gens le savent, ne serait-ce que sur des trucs physiques. On sait très bien dans un chantier que les gars qui travaillent en basket, qui n'ont pas de chaussures de sécurité, il y a des chances que ce soit des travailleurs sans papier. Donc, il y a cette situation qui permet très, très facilement de voir que, par exemple, les normes de sécurité dans le travail, qu'on essaye et que la plupart des salariés essayent de faire respecter, sont remises en cause à partir du moment où certains acceptent du fait de leur statut de travailler là-dedans. Donc je crois que cette espèce de solidarité sur le terrain est quand même extrêmement visible. Et il y a des endroits où, de façon très symptomatique, elle l'était, parce qu'on sait très bien que le bâtiment ou le nettoyage ou la restauration sont des secteurs où il y avait traditionnellement beaucoup de travailleurs sans papier. La confection aussi. Moi, ce que le mouvement a permis de voir, puisqu'on revient à Montreuil, c'est très simple. Dans les dossiers de régularisation qui sont venus, énormément de travailleurs du spectacle. Énormément de travailleurs du spectacle qui étaient dans des situations avec en plus cette difficulté, puisqu'on est dans l'immigration choisie, qu'on nous expliquait que, par exemple, danseuses africaines n'étaient pas un métier en tension. Et que certainement, le marché du travail, une petite bretonne, allait pouvoir faire danseuse africaine. Autre, par exemple, catégorie qui a surpris énormément de gens, dans un hôpital public comme l'hôpital de Montreuil, on s'est trouvé avec une aide-soignante qui était sans papier. Et évidemment, le syndicat, pourtant, acquis à l'idée qu'il fallait régulariser les sans-papiers, mais découvrant un couteau comme une poule. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait chez nous aussi, il y a des sans-papiers, c'est invraisemblable. Parce qu'en effet, cette dame qui était une aide-soignante, qui avait eu un titre de séjour en règle, elle était ivoirienne, je crois, comme femme battue par son mari, et comme elle a divorcé, elle a perdu son titre de séjour. Elle était devenue clandestine, sans papier, travailleuse sans papier en l'occurrence pour nous, dans l'hôpital depuis 2-3 ans. Et en effet, le syndicat confronté au fait qu'il ne suffisait pas de réclamer à la préfecture dit non, etc. Son métier n'est pas un métier en tension, tout ce genre de choses. Moi, je pense que là, on a la visibilité de cette situation qui fait qu'en effet, on a dans de plus en plus de secteurs de l'économie l'apparition du rôle particulier des travailleurs sans papier, et que ça, c'est vécu aussi comme un aspect de dumping social, que ne pas le traiter, c'est laisser le laisser atteindre toutes les garanties collectives. Et je crois que c'est ça le ressort, qui est un ressort de classe, qui fait que cette notion de précarité est lisible dans de plus en plus de secteurs de l'économie. Ah bah, moi j'ai toujours connu cette question des sans-papiers traitée bien avant ces grèves, de façon très différente quand il s'agissait des sans-papiers en général, et les sans-papiers qui étaient les collègues de travail. Hein. Quand Pasqua est... J'ai toujours vu et je crois que ça reste extrêmement... il ne faut pas oublier que, par exemple, la première grosse grève qu'on a eue sur Montreuil de travailleurs sans-papiers, qui a été celle de Grialet, dans les grévistes qui ont fait 9 mois de grève, il y a un camarade qui était français puisqu'il était antillais, il y a un camarade qui était malien mais en règle, et que donc là on était vraiment typiquement dans une grève qu'on aurait pu dire de sans-papiers puisque c'était le fond de la revendication, mais qui était portée y compris par des grévistes qui eux n'avaient pas à demander leur régularisation puisqu'il y en avait même un qui était français. Jocelyn.
Alors, on revient sur les Grialets, donc c'est intéressant parce que ce soit les Grialets ou les plus nettes, il y a une chronologie qui est un peu évidente, c'est-à-dire qu'il y a un débrayage, il y a une grève, un mouvement qui se met en place, une occupation, ça dure un certain temps, rapport avec le patron, la première doléance étant bien évidemment d'obtenir à ce moment-là des SERPA, etc., d'être reconnu, etc. Et finalement, tu as tout ce temps qui se passe, et au bout d'un processus plus ou moins long, on obtient gain de cause, il y a régularisation, en tout cas récépissé, etc., etc., et le mouvement s'arrête. Là, c'est différent. Le mouvement, il s'arrêtera parce qu'il y a des régularisations qui se font, d'autres qui se font...
Non, il n'y a pas de régularisation qui se font. Actuellement, il n'y a pas de régularisation qui se font. Il y a des tentatives, justement... par les autorités de casser le mouvement en accordant des autorisations provisoires de travail pour que des grévistes reprennent le travail sans garantie. Et on a un tri, a priori, qui reste fait et que nous condamnons entre les catégories de grévistes par les pratiques administratives de préfecture. D'une part, l'arbitraire généralisé, d'autre part, les exclusions. Les exclusions, c'est par exemple l'exclusion systématique des Algériens et des Tunisiens qui ne bénéficient pas de l'article 40 de la circulaire Hortefeux, parce que, au nom d'accords bilatéraux entre la France et l'Algérie, ou la France et la Tunisie, on leur explique qu'on ne peut pas sélectionner, parce que les accords sont trop favorables, les métiers en tension en ce qui les concerne. Donc, l'accord étant trop favorable, on ne leur applique pas quelque chose de moins favorable. Et également, le fait qu'aujourd'hui, nous restons sans solution de fait pour une bonne partie des femmes qui travaillent à domicile et pour tous les travailleurs, dans les travailleurs sans papier, un certain nombre sont non déclarés, qui demandent à l'être et ne le sont pas.
D'accord. Et alors, est-ce que du coup, l'obtention de la circulaire signifierait la fin du mouvement ?
Alors, l'obtention de la circulaire, si elle est bonne, bien sûr, elle permettrait, dans la mesure où il y aurait des garanties, on aurait une possibilité de faire... avec un délai raisonnable, les démarches en préfecture qui aboutissent à ou un récépissé ou une situation de travail, en tout cas, légale pour ces salariés, avec la garantie derrière que leur dossier soit traité et que la régularisation vienne.
Voilà, donc on est d'accord qu'en fait, la fin du mouvement, ce n'est pas la circulaire, mais ce qui suit immédiatement la circulaire...
Non, mais si la circulaire est claire, je ne vois pas pourquoi le mouvement continuerait au-delà.
D'accord. Hein? Alors, tu me disais sur la Seine-Saint-Denis, là, on a encore Aulnay,
Aubervilliers et Montreuil Manpower.
Aubervilliers, c'est Manpower aussi ?
Non, c'est une entreprise de métallurgie.
Oui, c'est ça. Oui, effectivement, j'avais vu.
Ils ont obtenu leur CERFA, comme ceux de STN, et une bonne partie des Manpower.
D'accord. OK. Et là, c'est des... parce que, donc, on disait sur Manpower Montreuil, il y a plusieurs piquets qui se sont regroupés. C'est le cas dans les deux autres ou c'est des gens de
non.
Des boîtes
Non. C'est beaucoup plus facile parce que ce sont des boîtes très spécifiques.
Ouais. D'accord.
STN, c'est une entreprise de nettoyage importante. Alors, par contre, tous ne dépendent pas de la même agence, mais ça, c'est bon, à la limite, c'est la même société, par contre. Et le piqué est devant l'entreprise depuis qu'on a obtenu les CERFA et non plus à l'intérieur.
D'accord, ok. Dis-moi juste...
Et Sifo-Diam, le piqué est aussi devant.
Devant, d'accord.
Au Bernier.
D'accord, donc il n'y a pas une occupation.
Ah si, il y a une occupation au sens que il y a, voilà, il y a des tentes, etc.
Mais ils sont plus... Ah, oui. Alors, dis-moi, moi, il y avait quelque chose qui m'avait énormément marqué et je pense qu'il est très révélateur de la façon dont les travailleurs sans papier sont utilisés au sein de l'économie française, parce que c'est ce qui devient terrible, c'est-à-dire qu'il y a statut sans papier est utile presque pour...
Il est utile, bien sûr, voilà. Il fait partie de l'arsenal, de l'arsenal de la flexibilisation du marché du travail.
Exactement, et quand on était allé avec Patrick Leyaric chez PlusNet, tu avais expliqué qu'il y avait en fait le j'avais découvert qu'il y avait en fait une liste de sans-papiers dans laquelle...
Absolument.
Tu peux me raconter ça?
Bien sûr, l'exemple de PlusNet était malheureusement assez banal, mais on avait les grévistes, on avait des travailleurs sans-papiers qui n'ont pas fait grève et qui n'ont pas été dans le mouvement, on avait les travailleurs en règle, et on avait un volant de 200 à peu près noms qui était sur une liste où l'employeur faisait appel à eux de façon ponctuelle, en leur disant, ben voilà, on a un chantier, il y a besoin de telle et telle personne, et puis c'est tout. Et c'était la démonstration de cette flexibilité obtenue grâce au statut de sans-papiers.
Qu'est-ce que tu penses on a la demande de l'obtention de la circulaire. Comme tu le disais, l'idéal serait de changer la loi, mais pour l'instant, ça nous semble...
On n'en est pas là.
Mais là, en l'occurrence, il y a eu des élections, donc il y a des gens qui se sont, y compris, ont pris cette question très au sérieux, ont réfléchi, etc. Et notamment, la question se pose sur l'attribution de marchés publics et de voir si on peut... imposer peut-être justement sur l'attribution de marché, ne pas faire sur le moins 10 ans, puisque généralement on sait toujours qu'il y a en tout cas c'est le salarié qui paye les conditions de travail de ce qui est. Est-ce que tu penses que c'est le genre de choses vers lesquelles il faut tendre?
Moi, je pense que la prise en compte du mieux-disant social dans toutes les attributions de marché public est une chose importante. Je pense qu'elle ne peut pas être réduite à la question de l'emploi de salariés sans papier. Par contre, il est évident que des entreprises qui refuseraient la régularisation de leurs travailleurs sans papier devraient être exclues. Mais par contre, je pense que, par exemple, des entreprises qui, par exemple, aussi empêcheraient la tenue d'élections de délégués du personnel devraient également être exclues.
Bon, ben voilà, en gros, je pense que j'ai pas mal de matière. Pour ne pas faire d'erreur. Bon.